Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, deuxième rendez-vous de la semaine. Parlons entreprise, on va parler d'emprunt et ses spécificités avec coach Day Muller qui rentre fraîchement de Dubaï. Bonjour coach.
Bonjour Phil.
Alors ce séjour, comment s'est-il passé hein?
Le séjour s'est plutôt très bien passé. Je suis agréablement surpris de ce que j'ai pu voir là-bas parce que c'était la première fois que je me rendais à Dubaï. Vous dire simplement au niveau architecture, tout ce qui est construit là-bas, on peut simplement dire waouh. Donc je pense que les meilleurs architectes se donnent rendez-vous à faire des concours de construction et c'était énorme. Il y a vraiment
de la qualité. Est-ce qu'on peut considérer Dubaï comme une capitale, une grande capitale d'entrepreneurs?
Oui, parce que je pense qu'ils mettent aussi toutes les conditions nécessaires sur le plan, par exemple, fiscal et consort pour permettre aux entreprises de s'installer et de prospérer. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les affaires. Et en dehors de ça, ben, c'est pour les yeux même, hein, voir ce que vous pouvez voir. La capacité de création, même dans le désert, parce que de base, c'est quand même le désert, il fait extrêmement chaud, parce qu'il faut savoir que bah, le dernier jour, avant de partir, il faisait 47 degrés. Donc il est impossible, comme ici, on a des marchés ouverts, des fruits et légumes, là-bas, je pense que c'est impossible, donc tout est fermé, climatisé, pour vous permettre d'être dans les meilleures conditions de vie. Mais au niveau construction, c'est honnêtement, c'est... à voir. C'est pour ça que je demande vraiment aux gens qui ont la possibilité de voyager, ça ouvre l'esprit, ça permet vraiment de voir que ben, des fois on nous fait croire que ben, l'Occident c'est toujours le meilleur, toujours le meilleur. Or ailleurs aussi des choses elles sont bien établies, bien construites.
Est-ce que il n'y a pas quand même un, on va dire un pincement au cœur quand on regarde le contraste qui existe entre Dubaï et certaines de nos capitales africaines qui ont autant de moyens?
Oui, il y a un contraste énorme et c'est décevant, mais je perds pas espoir parce que je me dis Dubaï s'est construit durant
20 ans, une vingtaine d'années,
il y avait rien, c'était le désert, donc ils ont été capables de le faire parce qu'il y avait une volonté politique, il y avait une volonté aussi à se dire on a le pétrole, demain peut-être qu'il y aura plus le pétrole, il faudra qu'on fasse en sorte qu'on puisse avoir d'autres activités, à savoir par exemple le tourisme. Il faut savoir que le tourisme à Dubaï est très très développé, ça vient de partout, donc c'est une possibilité pour nous en Afrique d'avoir la même chose, mais ça demande réellement une volonté politique. On me dire qu'ils ont l'argent, mais faut pas oublier, je prends l'exemple du Gabon, il y a le pétrole, Congo-Brazza, il y a le pétrole, il y a aussi tout ça, donc il y a les moyens, il y a les ressources, il faut simplement les diriger, faire en sorte de prendre des décisions qui vont faire que ben, nos pays peuvent être construits, nos pays peuvent développer tous les autres secteurs d'activité. Le tourisme, ça ramène des milliards et des milliards parce qu'on fait rentrer des devises au sein des pays. Un pays fort, c'est un pays qui fait rentrer des devises. Et je pense que c'est possible. J'incite vraiment la nouvelle génération qui va... prendre la main, qui va rentrer aux affaires, d'avoir vraiment cet esprit d'intérêt général à se dire j'aime mon pays, c'est pas tout de le dire, parce que j'ai remarqué que ces gens-là, ils aiment leur pays, ils mettent la priorité.
Ils aiment plutôt les ressources de leur pays.
Oui, les autres qui aiment les ressources de leur pays pour les leurs, et moi je me dis au fait, il faut qu'ils se posent la question, parce que quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui est un grand chef d'entreprise, il a une faveur de Dieu. Quand Dieu vous a donné cette faveur-là, cette faveur-là, elle doit pas simplement servir aux vôtres. Vous êtes censé être le canal de Dieu pour faire en sorte que les plus démunis
puissent en bénéficier.
Puissent en bénéficier, que vous soyez une bénédiction pour votre prochain. Et c'est sur ça qu'on doit travailler, sur la tête de nos dirigeants dans les différents pays en Afrique.
Alors justement, avant de rentrer dans notre sujet en parlant d'emprunt, je me suis souvent posé la question au coach, est-ce que le développement en Afrique n'est pas une question de mentalité aussi?
Oui, c'est vraiment c'est question de mentalité, de ce qu'on veut faire des différents pays d'Afrique. Il faut que les gens aient un objectif. C'est quoi le but? À un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre en disant que ça vient de l'extérieur, mais c'est déjà nous-mêmes que ce qu'on veut faire. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans un pays, si la population est soudée, si la population a un objectif, peu importe quelqu'un de l'extérieur, il ne pourra pas rentrer parce que vous allez faire bloc. Et ce qui manque souvent aux pays africains, c'est cet esprit d'unité, de bloc qui va faire que, ben, que tu sois chinois, américain, français, il dit, ben, eux, on ne peut pas les acheter. Eux, ils sont soudés. À partir de là, vous pourrez défendre les intérêts du pays et bâtir un pays juste.
Et il y a des pays en exemple, on peut citer le Rwanda, par exemple. Alors, coach, venons à notre sujet, l'emprunt et ses spécificités. Pourquoi ce sujet ?
Simplement, ben, comme vous pouvez l'imaginer, quand vous êtes entrepreneur, il est difficilement concevable de se dire que je vais lancer mon activité sans fonds, sans richesse. Et tout le monde n'est pas né avec des parents ou avec un entourage où il y a l'argent qui déborde, que vous pouvez créer votre business. Comme par exemple, certaines communautés, on va prendre les Chinois, ben, des fois, ils vont racheter des magasins sans pour autant passer par la banque, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de rassembler les fonds chacun et ils prêtent à une personne. Et la personne
en communauté
développe le business et derrière il se met à rembourser. Maintenant, on a l'opportunité, que ce soit ici en France comme en Afrique, de pouvoir se rapprocher des établissements financiers pour faire demande de prêt. Et à partir de là, bah, il faut quand même remplir certaines conditions, parce que souvent les personnes se disent, bah, tiens, j'ai fait une demande, c'est pas passé, comment ça se fait? Or, il y a quand même des règles à respecter et j'ai trouvé ça opportun de pouvoir aborder les différentes facettes.
Alors, comment obtenir son financement professionnel ? Nos conseils, coach.
Simplement, il faut déjà en amont se préparer en se disant, pour qu'on vous prête de l'argent, vous devez avoir un comportement exemplaire. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez gérer vos comptes bancaires correctement, à titre personnel. Ouais. Et derrière, quand vous allez monter une entreprise, le banquier va simplement suivre l'exemple. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre situation personnelle, automatiquement le banquier n'aura pas confiance au compte de l'entreprise pour lequel vous êtes dirigeant, dont vous êtes le signataire. Donc il est important déjà de soigner votre conduite en tant que personne. Deuxièmement, il faut absolument se dire qu'il faudra un apport. On ne peut pas se permettre de venir demander un prêt
Mais si on n'a pas d'apport, justement.
Mais c'est pour ça que le projet professionnel se prépare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes pour l'instant en tant que salarié, vous souhaitez créer une entreprise, il faut commencer à vous restreindre. Si vous avez l'habitude d'acheter des 25 paires de chaussures, 25 costumes, vous allez diviser tout ça par deux. Et cet argent-là. De partir au restaurant tous les soirs. Vous allez vous dire, tiens, moi-même, je vais passer à la cuisine ou madame va passer à la cuisine pour essayer de limiter les frais de restaurant à l'extérieur. Et tout cet argent-là que vous allez économiser vont vous permettre de montrer votre capacité à épargner auprès du banquier et le banquier pourrait vous suivre dans ce sens-là. Après, l'autre côté, bien sûr, il faut établir un business plan. Aujourd'hui, j'imagine que beaucoup de personnes se disent, grâce à Internet, ils peuvent se mettre en ligne et commencer à établir leur business plan. Or non, il faut savoir qu'un business plan, ça doit être établi par des spécialistes.
Parce qu'il existe des tutos, certaines personnes qui font des vidéos sur YouTube justement pour aiguillonner les entrepreneurs pour vous aider à faire des business plans.
Ça peut être une aide, mais rien n'enlèvera l'œil d'un spécialiste. Sinon, même la médecine, maintenant, on n'aurait plus besoin de médecins ou d'architectes, parce qu'il y a des points clés qui font que votre projet peut basculer. L'œil d'un expert, il saura que non, là, le business plan est plutôt correctement conçu, mais il manque un point essentiel pour que le banquier puisse valider votre prêt. Donc, je vous incite, même si vous établissez votre business plan, rapprochez-vous d'un expert comptable qui pourra vous dire, écoutez, du début jusqu'à la fin, tout est OK, ou soit modifié tel endroit et vous verrez qu'auprès du banquier, tout sera OK.
Parlons à présent de la mise en place d'un prêt professionnel. Quels sont les frais à prévoir ?
Oui, les frais à prévoir, parce que souvent les gens n'analysent pas la composition d'un prêt. Avant tout, il y a les frais de montage de dossier. Il y a les frais de montage de dossier. Le banquier, quand il met en route la demande d'emprunt, bien sûr, il y a du temps que le banquier passe dessus. Normalement, il y a des frais qui sont demandés. L'autre élément qu'on appelle des intérêts sur emprunt, bien sûr, quand la banque vous prête de l'argent, l'argent n'est pas gratuit. Donc, vous devez rémunérer la banque en conséquence. Donc, on paye des intérêts. Et si vous passez par le biais des courtiers qui sont là pour aller rechercher les meilleurs taux pour vous, aller rechercher des établissements financiers qui pourront vous prêter de l'argent, eux aussi, ils ont des honoraires. Il faut l'intégrer dans le coût de l'emprunt. Donc tout ça, il faut le savoir, c'est négociable. Parce que souvent, comme on arrive en position de faiblesse, qu'est-ce qu'on fait? On acquiesce tout ce que le banquier nous dit. Il vous dit 5%, vous prenez 5%.
On regarde l'objectif principal.
Mais nous sommes dans le monde des affaires, il faut quand même prendre le temps de discuter avec le banquier. Parce que le fait de discuter, ça montre quand même que vous êtes capable et que vous jouez pleinement votre rôle de chef d'entreprise. Et en dehors de ça, vous avez aussi l'assurance sur l'emprunt, parce que le banquier, il veut s'assurer aussi qu'au cas où il y a un défaut de votre part, l'assurance pourrait prendre le relais.
Alors, quelles sont les garanties demandées à l'emprunteur pour l'octroi d'un prêt ?
En général, comme je vous ai expliqué, il faut quand même un minimum de 30% d'apport pour que le banquier puisse être quand même conciliant, être garanti que vous serez en capacité d'assumer les choses. Mmh. On prend un exemple, si vous empruntez 100 000 euros, le banquier peut vous demander, bah, écoutez, apportez-moi entre 20 et 30 000 euros d'apport, derrière je pourrai suivre votre demande. Donc ça, c'est les garanties que le banquier peut demander. Il faut pas oublier, il y a aussi le fait de se porter caution, parce que souvent les gens s'imaginent que comme le prêt est fait au nom de la société, demain ils peuvent liquider la société et derrière ils n'auront plus rien à payer. Or non, quand vous êtes caution solidaire de ce prêt-là, il faut savoir que le banquier peut vous poursuivre à titre personnel pour que vous puissiez vous acquitter.
Ah, le banquier peut vous poursuivre?
Oui, l'établissement. Oui, voilà. Donc la banque peut vous poursuivre à titre personnel parce que vous êtes caution solidaire de cet emprunt-là. L'entreprise est une personnalité morale, elle ne peut pas rembourser. La personne physique qui est le dirigeant, en général, s'est portée caution. Une fois que l'entreprise est liquidée, l'entreprise ne peut plus honorer son engagement, c'est dirigé directement sur la personne physique qui est le dirigeant et qui devra, par ses deniers personnels, même s'il retravaille ailleurs, être dans l'obligation de rembourser l'emprunt en cours.
Alors avant de poursuivre, on va donner la parole à Monsieur Diop. Bonjour Monsieur Diop.
Oui, bonjour Phil.
Bonjour et bienvenue. Nous vous écoutons Monsieur Diop.
Merci. Alors, moi je voulais demander au coach, en fait, j'ai fait de la comptabilité comme tout le monde. Le business plan.
Ah, pas comme tout le monde, moi je fais pas de comptabilité. Hein.
Oui, j'ai fait de comptabilité. Ce que je voulais dire, le business plan.
Oui.
Ça sert à quoi? Dites-moi, le gars qui a emprunté des sous pour acheter, pour monter sa boîte il n'y a pas longtemps, disons un restaurant. Là, on voit que les restaurants, ça marche pas. Dites-moi à quoi faire un business plan dans ce cas. Parce qu'on prévoit 3 ans d'activité, qu'on augmente les choses petit à petit suivant les années pour présenter aux banquiers. Mais là, avec cette pandémie, dites-moi, le banquier, il s'est trompé. On ne pouvait pas le prévoir. Donc moi, je me dis à quoi faire le business plan.
Au fait, il faut savoir que le business plan sert quand même à se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, aucun être humain ne peut le maîtriser. Ouais. On laisse pas pour surtout ceux qui sont croyants, on laisse pas à Dieu.
Avec le coronavirus.
Avec le coronavirus, c'est une preuve claire et nette. Vous voyez, on a tous prévu de faire certaines choses, d'autres ont prévu de se marier, d'autres ont prévu d'acheter une maison. Donc on a tous des projets, mais notre destin n'est pas entre nos mains en général. Donc là, encore une fois, on a cette preuve-là. Vous voyez qu'il y a une grosse part qui sont entre les mains de Dieu, au fait. Vous voyez, on peut prévoir. Donc, je ne vais pas accuser le pauvre banquier qui vous a accordé le prêt. Là, il est en train de pleurer en se disant, j'avais imaginé que le prêt accordé, admettons à M. Phil Montagnard, que le prêt serait remboursé correctement avec son restaurant. Au final, rien ne tourne, rien ne fonctionne. C'est les aléas de la vie. Il faut l'encaisser, il faut faire le dos rond le temps que les choses passent.
Donc, coach, moi, ce que je voulais savoir, parce que moi, j'ai fait un emprunt pour un resto.
Oui.
A demandé un apport de 20 000. Le resto était à 100 000. Il m'a fait comprendre, il n'y a même pas besoin de demander au directeur de la banque pour m'accorder ce prêt. Et finalement, il a pris mon dossier, il l'a posé en bas. Moi, de mon côté, étant black, un beau jour, le gars, il a vu que j'étais un peu fâché. Il me dit, Monsieur Boissy, je vais gérer votre dossier. Je lui ai dit, c'est pas la peine. C'est parce que je suis blanc que vous n'avez pas pris mon dossier en compte, alors que tout ce que vous m'avez demandé, je vous l'ai présenté. Vous vouliez un business plan, je vous l'ai présenté. Ça a été fait par ma comptable. Vous voulez un apport, je vous l'ai présenté de 20 000. Alors qu'est-ce qui vous empêche de m'accorder ce prêt? Et c'est comme ça que j'ai raté le resto.
D'accord. Vous savez, je allô? Je suis d'accord avec vous, ça existe bien des freins dans certains établissements financiers. Il y a des gens qui, leurs opinions personnelles, ils le ramènent dans leur domaine d'activité. Je vous dis pas que le racisme n'existe pas, mais ça peut pas vous empêcher de continuer à réaliser vos projets. Quand vous voyez que dans un établissement, les choses ne fonctionnent pas, il y a plusieurs banquiers. Aujourd'hui, en plus, on a quand même l'opportunité et la chance d'avoir aussi des frères et des sœurs blacks ou même arabes ou même indiens dans des postes à responsabilité. Si votre dossier est correctement complété et que vous remplissez toutes les conditions, peut-être que la première, la deuxième, la troisième banque vont vous dire non, mais la quatrième, la cinquième pourront étudier plus sérieusement votre banque. Moi, aujourd'hui, j'ai des entreprises, j'ai obtenu des financements sans problème. Donc, je m'arrête pas à me dire que tout le monde est raciste. En France, on finance personne. Sinon, toutes les entreprises détenues par des hommes et des femmes de couleur ne reçoivent aucun crédit. Si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles black, africaines, ont des maisons achetées, des appartements achetés, c'est qu'à un moment donné, les fameux blancs signent quand même les autorisations de prêt. Donc, on peut pas tout généraliser. Moi, je veux toujours rester positif dans la vie. Ceux qui sont à côté, on les met à côté et vous, vous avancez et vous restez positif. Merci.
Merci, coach.
Merci. Merci, monsieur Diop. Alors, j'ai une autre question, une question de Boubacar Diallo, qui m'envoie donc ce message sur mon portable. Alors, il dit ceci, il a rendez-vous ce samedi avec sa conseillère, il compte demander un emprunt, mais quel est le taux le plus abordable, coach Day?
Quel est le taux? Ça dépend vraiment de la durée, quel type d'emprunt que le monsieur souhaite faire. Parce que quand vous empruntez à plus de 15 ans, c'est-à-dire par exemple si pour un bien immobilier 15, 20 ans, 25 ans, le taux va être différent si vous allez pouvoir faire financer un véhicule sur une durée de 5 ans. Donc je peux pas répondre exactement à ces questions. Il y a besoin de plus d'éléments pour être au plus près de la réalité du marché financier au niveau des taux.
La suite de nos questions, coach Day.
Oui.
La banque peut-elle refuser une délégation d'assurance? Est-ce que c'est possible?
Oui, la banque, déjà, ce serait bien qu'on puisse savoir c'est quoi une délégation d'assurance.
Voilà, expliquez-nous.
Une délégation d'assurance, c'est simple. Vous allez voir le banquier, vous souhaitez faire un prêt immobilier et vous vous dites, écoutez, moi, je ne veux pas utiliser l'assureur de la banque, je préfère proposer une assurance externe qui me propose un meilleur taux. C'est ça, en fait, la délégation d'assurance, c'est le fait de refuser d'utiliser l'assurance de la banque qui vous prête de l'argent et faire appel à un autre assureur. Et la question qui vient, est-ce que la banque peut refuser cela? La banque peut refuser une délégation parce que les garanties que son assurance proposait n'est pas équivalent aux garanties que votre assureur extérieur va vous proposer. Il faut absolument qu'il y ait les mêmes garanties pour que le banquier puisse accepter votre assurance extérieure. Parce que n'oubliez pas, c'est toujours le banquier qui vous prête de l'argent, donc il préfère s'assurer que demain, s'il y a un problème de remboursement, que l'assurance éventuellement puisse prendre le relais.
Le relais.
Voilà, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que le principe d'équivalence des garanties?
Voilà, sur ce que j'ai abordé un peu. Cette condition est mise en place pour la délégation d'assurance qui garantit à l'organisme prêteur une continuité dans la sécurité de l'offre par l'assurance emprunteur. Donc, il faut absolument qu'il y ait une exactitude entre ce que la banque attend de garantie de son assureur par rapport à votre assureur. Si les garanties sont identique, le banquier normalement peut vous accorder le fait de faire appel à un assureur extérieur.
Justement, quelles sont les garanties exigées par les banques?
En fait, le banquier va exiger que en cas de problème, que l'assureur prennent le relais.
Systématiquement.
Systématiquement. Mmh. En cas de problème, que la banque puisse saisir votre maison et qu'ils puissent revendre pour pouvoir solder le capital restant dû de votre emprunt. Il y a aussi cette possibilité d'hypothéquer en général toutes les maisons pour les gens qui sont propriétaires. Comme moi, je dis aux gens, tout le monde crie, on est propriétaire. On devient propriétaire de sa maison, de son appartement, une fois que vous avez fini de payer le crédit.
Ouais, sachez-le. Tant que c'est pas terminé.
Oui, vous êtes un demi-locataire ou un demi-propriétaire. Vous voyez, ça appartient toujours au banquier.
Lorsque ça prend 25 ans, coach...
Oui, ça prend 25 ans. Pendant 25 ans, vous partagez la propriété avec la banque. Voilà.
Donc, alors, que faire en cas de refus de la banque, justement?
En fait, la banque a un délai de 10 jours pour pouvoir accepter ou refuser, au fait, le mécanisme de délégation d'assurance. En cas de refus, elle est obligée de vous adresser les motifs.
Ah.
Ça, c'est une obligation.
Une obligation.
Simplement, elle va analyser, normalement, elle est censée vous dire, mais tenez, moi, j'attendais une garantie.
Écrite ou...
Oui, écrite, oui, ah, écrite. Ils doivent s'engager de manière écrite, officielle.
Ah, d'accord.
Si c'est pas ça.
Et si c'est pas le cas, on peut poursuivre?
Oui, bien sûr, vous pouvez demander, vous avez le droit de demander, d'accord, à la banque, mais pour quelle raison vous me refusez la délégation d'assurance? Voilà, parce que... Je vous le dis, le plus souvent, les assurances de la banque sont plus chères que ce que vous pouvez trouver, exact, à l'extérieur, que vous pouvez négocier. Encore une fois, je vous dis, ces négociations-là sont possibles quand vous êtes aussi en position de force. Si vous arrivez, vous avez fait le tour de 5 banques, ils vous refusent et vous tombez sur une banque qui accepte votre dossier, je pense que vous allez faire le petit garçon ou la petite fille en disant, bah, écoute, j'accepte toutes les conditions, l'essentiel c'est que mon prêt puisse être validé. Et le banquier, souvent, il profite de ça parce que derrière, il vous propose plusieurs services que vous, réellement, vous n'avez pas besoin. Il faut vraiment faire attention à ça.
Très attention.
Tout à fait.
Alors, est-il possible de négocier les frais de dossier?
Oui, les frais de dossier, il faut savoir qu'ils sont négociables. Vous pouvez éventuellement proposer, bah, écoutez, je vais faire de l'épargne. De ce côté-là, si je devais payer 1 000 euros de frais de dossier de la mise en place de mon emprunt, vous pouvez diviser cette somme-là par deux facilement. Donc, tout est négociable. N'oubliez pas que le banquier, un banquier fait aussi du commerce, fait aussi du business. Mmh. Donc, entre business, vous pouvez discuter.
Qu'est-ce que le prêt in fine?
Oui, le prêt in fine.
In fine.
Voilà.
Ah, moi, j'ai dit ça en anglais.
En anglais, voilà. Mais le prêt in fine en français, on le dit.
In fine.
En fait... L'élément majeur, c'est simplement vous rembourser le capital à la fin de la durée.
D'accord.
C'est-à-dire
expliquez-nous.
Que, je vous explique, normalement, un prêt classique, c'est amortissable. Chaque mois, quand vous remboursez, par exemple, 1200 euros tout le mois de votre prêt, il y a 200 euros, admettons, c'est les intérêts, il y a 1000 euros, c'est le capital. C'est-à-dire que le premier mois, vous avez emprunté 100 000 euros, vous avez remboursé 1 000 euros, il vous reste 99 000 euros à rembourser. Mmh. D'accord ? C'est ça le principe d'un prêt classique. Maintenant, un prêt in fine, c'est le principe à dire, pour l'instant, je ne paye que des intérêts, d'accord ? Et à la fin, je rembourserai directement mes 100 000, je ferai un virement ou un chèque. Mmh. Pour ne pas être en difficulté, il est conseillé que le capital que vous êtes censé rembourser tous les mois, le placer dans un compte épargne, ou éventuellement en assurance vie. Comme ça, ça va vous faire naître aussi quelques produits financiers pour s'assurer que quand vous allez arriver au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre durée d'emprunt, que vous soyez dans la capacité à rembourser totalement le capital.
Alors coach, quel est l'intérêt justement de mettre en place ce crédit in fine?
Oui, c'est simple. Pour les gens surtout qui veulent investir dans le locatif, c'est-à-dire que j'achète un bien pour mettre un locataire derrière, il est rappelé à ces personnes-là, c'est considéré comme des revenus. Quand vous avez un locataire, ça vient s'imputer sur votre impôt sur le revenu. Uh-huh. Alors pour minorer cet impôt sur le revenu, ben, les personnes peuvent opter à ce style de prêt. Pourquoi ? Parce que la charge d'intérêt est très importante. Donc, ça vient diminuer le résultat de vos loyers.
D'accord.
J'explique. 100 000, on a un taux d'intérêt, admettons, à 10 %. J'exagère, c'est souvent les taux de revolving, les crédits à la consommation qui sont entre 10 et 20 %. Mais je prends ce taux de 10 % pour faciliter le calcul. J'ai emprunté pour 100 000 euros. Mmh. Le premier mois, je vais payer 10 % d'intérêt sur 100 000. On est bien d'accord. Ça fait 10% de 100 000. Je paye 10 000 euros d'intérêt. OK ? 10%, 10 000. Le mois suivant, mon capital n'a toujours pas bougé parce que je veux rembourser dans 15 ans. Je vais payer encore 10 000 euros d'intérêt. Or, quand on est dans le capital amortissable, la première mensualité, l'intérêt est calculé sur 100 000. Mais la deuxième mensualité, l'intérêt sera calculé moins le capital remboursé. Je fais un calcul simple. Si on rembourse 10 000 euros de capital, on va calculer l'intérêt sur 90 000 au lieu de 100 000. Donc, l'astuce est là, en fait. C'est simplement sur le prêt in fine, on calcule l'intérêt sur toujours la même base. Donc, le coût, la charge d'intérêt est trop importante, mais ça vient vous faire gagner sur l'impôt sur le revenu.
D'accord.
D'où la nécessité de placer l'argent que vous êtes censé rembourser sur un autre compte épargne, que le banquier puisse vous rémunérer et vous créer des produits financiers.
Quelle critique majeure, coach, représente pouvons-nous faire pour ce type de crédit, justement ?
La critique majeure, c'est le coût très, très élevé de la charge d'intérêt. Ouais. C'est-à-dire que là où vous êtes censé peut-être, ça peut vous coûter les intérêts tous les mois de 100 ou 150 euros, le coût d'intérêt est quasiment doublé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait de se retrouver peut-être au bout de vos 15 ans, 20 ans, n'ayant pas pris soin d'épargner l'argent nécessaire pour rembourser le capital. Donc, ça demande quand même qu'il faut que ce soit des personnes qui sont gestionnaires, qui ne sont pas trop dans la dépense. Parce que souvent, si vous donnez cette opportunité-là à une personne qui aime bien acheter des vêtements de grand luxe ou voyager, aller de gauche à droite, à la fin, quand le banquier va lui demander, bah, écoutez, madame, messieurs, on arrive à la fin du crédit. Merci de me faire un virement de 100 000. Et malheureusement, il n'y a plus rien dans les comptes. Ça serait très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent dans l'utilisation du prêt in fine. Et puis, aujourd'hui, si je peux me permettre, les banquiers utilisent aussi souvent l'option du crédit bail, que ce soit même dans les appartements comme dans les usines. Le banquier finance la totalité, on ne parle pas d'emprunt, on parle de crédit bail. Simplement, le bien appartient au banquier jusqu'à la fin du paiement total de ce bien-là. Et il peut vous remettre.
Si un changement de banquier pendant ces 25 ans.
Oui, mais c'est un engagement avec la banque avec le conseiller. C'est ça l'avantage. Mais l'inconvénient majeur, c'est que si vous ne payez pas vos mensualités correctement, le banquier peut rompre les contrats et vous ne récupérez absolument rien. Voilà, c'est ça vraiment la difficulté. Tandis que quand vous êtes dans le système classique d'emprunt, le banquier peut récupérer le bien, il met ça en vente et s'il y a un capital qui vous revient, il vous reverse un peu d'argent. Donc il faut vraiment être avisé, choisir la meilleure option et bien sûr je vous invite toujours à aller voir les professionnels compétents, à savoir les experts comptables qui ont été formés pour cela.
Voilà, et puis ne vous attardez pas sur les tutos YouTube de certains pseudo-spécialistes.
Tout à fait, souvent on voit qu'il y a énormément de coachs, il y a des coachs qui n'ont jamais créé d'entreprise mais ils conseillent des gens dans la création d'entreprise. Donc il y a certains coachs même sur le plan marital, ils ne sont jamais mariés mais c'est les meilleurs coachs dans le mariage. Donc faites très attention.
L'emprunt et ses spécificités, c'est donc le dossier que nous avons abordé aujourd'hui avec coach Dave Muller. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le répondeur d'Africa Radio. Et la semaine prochaine, on se fera un plaisir, bien évidemment, de vous répondre. Je rappelle le numéro 0155 07 58 00. Il est 9h47. Merci coach Dave.
Merci Phil.
Romy Ventron, maman Bibi la baronne.
Yeah, baby, on va. Faut pas me piquer dans le dos.
Marcel Touré.
Tipi. Yeah, baby, on va. Ni à meilleur. Dans le dos, Olga Gotale, Manuel.
Mathilda.
Tu es mon bonheur, avec toi je vis l'amour. T'es mon âme sœur, bébé, je t'aimerai pour toujours, oh coco. Aki, Adja Bakayoko, Lolo Bakayoko. On reconnaît la valeur d'un homme par l'apparence de sa femme. Bébé, tu es belle, beaucoup de prétendants. Aujourd'hui, c'est à cause de moi, il faut jamais l'oublier. C'est pour gâter notre amour. Raïssa Kouaou, yeah, Beyoba. Ni Beyo, faut pas me piquer dans le dos. Mirai Pikaoro, c'est Tiara Mareno, Kouadio, Yokoko. Si ta femme est dehors et que y'a personne pour la draguer, faut t'inquiéter, y'a quelque chose. Une femme doit te draguer ou se sentir belle. Si moi je l'ai choisi parmi toutes les femmes, moi j'ai confiance à ma go. Draguer, elle peut pas me piquer dans le dos. Isabelle Cassie, Jean il est trop sapé, oh. Il joue les beaux gosses dans la soirée. Il passe, il passe, il fait les clins, il fait le jeu.
Betty Dosso, Nathalie Falconier.
Comme il peut pas venir lui-même, il envoie la serveuse de la soirée. Tant pis, tu es belle, tu es ton patron, tu me plais. Donne-moi ton numéro, y'a quelqu'un à l'envoyer. Tout te mourou dans le dos. C'est moi qui l'ai choisi parmi toutes les femmes. Moi j'ai confiance à ma go. Elle veut pas me piquer dans le dos. J'ai un mounou dans le dos. Olga pour la télé. Ani Kokoua ou Yoko. Mia Yoko. Sita Yasile. Bitu Koko ou Yoko. Mia Yoko. Lisa Balopio. Mia Adelino Yoko.
De la grande matinale sur Africa Radio.